18h30 en temps universel, 2 heures de plus à Paris. L'actualité africaine, Afrique Soir, c'est avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Diane, bonsoir à tous. À la une, le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo et le médiateur de l'Union africaine dans cette crise, le président du Togo, Faure Gnassingbé, qui est arrivé à Kinshasa, nous appellerons notre correspondante Pauline Azidi. Autre visite qui marque, elle, le réchauffement diplomatique entre le Nigeria et le Niger. Le ministre nigérian des Affaires étrangères est à Niamey. Première visite d'un officiel nigérian depuis le putsch de 2023, qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. En Angola, le Front de libération de l'État de Cabinda, le FLECFAC, annonce un cessez-le-feu unilatéral pour 2 mois. Dans l'actualité également, le procès en appel de l'opposant guinéen Alouba, de nouveau renvoyé. Il s'agit de la 3e fois qu'il est reporté. En Côte d'Ivoire, une convention élective du PDCI pour désigner son candidat à la présidentielle du 25 octobre. Et puis la musique avec le FEMUA, le festival des musiques urbaines à Abidjan, où la fête bat son plein. Et puis le choix de Pierre Vallée, le groupe anglo-nigérian Coco Roco. Voilà pour le programme. Mais d'abord le football, direction Madrid, sans plus attendre, au stade Bernabéu, où nous retrouvons Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Sylvie.
Le Real Madrid joue sa survie dans la Ligue des Champions dans ce quart de finale retour face à Arsenal. Autant dire que c'est une affiche de rêve ce soir. Le Real a 3 buts de retard. Va-t-il réussir la remontada? Alors Thomas, à une demi-heure du coup d'envoi, quelle est l'ambiance?
Ah bah là, il y a le réchauffement climatique que vous aviez sur le bout des lèvres tout à l'heure, Sylvie, ça chauffe au Bernabéu parce que ça y est, le stade se remplit, on attend 80 000 personnes, ils sont peut-être déjà 50, 60 000, ça commence à chanter, à encourager évidemment les joueurs madrilènes qui font face à une mission quasiment impossible qu'un club seul dans le monde peut réussir, c'est ce qu'ils nous répètent depuis hier, les joueurs, les supporters, la presse, tout le monde y croit. 3 buts de retard, ça paraît énorme, mais au Real, on a des stars, on a Bellingham, on a Rodrigo, on a Vinicius, on a Mbappé, on est une institution et on peut faire trembler cette équipe d'Arsenal qui se présente tout de même relativement amoindrie. Certains joueurs importants, Gabriel, le défenseur notamment, sont des blessés de longue date et Thomas Partey, le Ghanéen qu'on annonçait incertain finalement, lui est bien présent dans le 11 de départ. Dans quel état, ça on le verra tout à l'heure. En tout cas, la bataille du milieu, c'est son secteur, sera très très importante dans cette rencontre qui nous promet de vrais frissons, Sylvie.
Merci Thomas de Saint-Léger. Donc vous commenterez pour RFI ce soir en intégralité et en direct cette rencontre toujours très attendue. Autre quart de finale, retour de cette Ligue des Champions, Inter Milan face au Bayern. Soirée à suivre donc dans 20 minutes, émission spéciale sur RFI avec Sofiane Amazian qui lui sera en studio. Le PSG et le sponsor Visit Rwanda annoncent ce soir la prolongation de leur partenariat jusqu'en 2028. Depuis 2019, le club parisien, vous le savez, fait la promotion du Rwanda sur ses maillots. Un sponsor qui fait polémique avec l'aggravation du conflit dans l'est de la RDC. Une pétition pour l'arrêt de ce partenariat a même été lancée par des supporters du Paris Saint-Germain. Voilà qui nous emmène à Kinshasa où est arrivé Faure Gnassingbé, le président togolais, donc arrivé dans la capitale de la RDC ce mercredi pour y rencontrer son homologue Félix Tshisekedi. Pauline Azidi, vous êtes notre correspondante à Kinshasa. C'est un premier déplacement sur le terrain pour celui qui est depuis le 11 avril le nouveau médiateur de l'Union africaine dans la crise dans l'est du pays.
Oui, alors selon nos informations, le président togolais est arrivé dans la capitale congolaise avec un peu de retard sur l'heure annoncée. On attendait son avion pour 15h, heure de Kinshasa. Finalement, il s'est posé vers 16h30 à l'aéroport de Ndjili avant de prendre la route de la cité de l'OUA sur les hauteurs de Ngaliema où se trouvent les bureaux du président Tshisekedi pour cette première rencontre entre les deux hommes depuis la nomination officielle de Faure Gnassingbé comme médiateur de l'Union africaine. Un poste occupé jusqu'ici par Joao João Lourenço, le président angolais. D'ailleurs, avant de commencer sa mission de bons offices, le chef de l'État togolais s'est rendu à Luanda ce matin pour une sorte de passation avec son homologue. Il n'y a pas eu de déclaration à la sortie, mais l'on sait que la situation à l'est de la RDC a bien évidemment été au cœur de cet entretien. Pas de programme officiel pour cette visite à Kinshasa, c'est surtout une première prise de contact pour celui qui hérite d'un dossier complexe où il n'est en plus pas le seul à s'occuper de la médiation, puisque le Qatar, après avoir organisé en mars la première rencontre entre les présidents congolais et rwandais depuis plus d'un an, anime désormais les discussions entre le M23 et le gouvernement congolais, et que les deux régions est-africaines et d'Afrique australe ont-elles nommé 4 co-facilitateurs pour suivre ce dossier.
Paulina Zidi en direct de Kinshasa. En Angola, le Front de libération de l'État de Cabinda, le FLECFAC, annonce un cessez-le-feu unilatéral jusqu'au 14 juin prochain pour soutenir une proposition du parti d'opposition UNITA sur l'autonomie du Cabinda. La trêve a été annoncée par le FLECFAC, donc elle vise à créer les conditions d'un dialogue avec le gouvernement angolais sur l'avenir de cette région qui est enclavée entre le Congo-Brazzaville et la RDC. Le président du FLECFAC, Emmanuel Nzita, au micro de Lisa Fabian.
Évidemment, le cessez-le-feu de 2 mois est une expression de bonne volonté vis-à-vis du gouvernement occupant angolais et vis-à-vis de l'UNITA pour nous permettre de réfléchir afin d'imaginer quelle paix il faudrait pour le peuple cabindé et pour le peuple angolais. L'UNITA a déjà déposé, paraît-il, la demande de modification de la Constitution en reconnaissant l'autonomie très large au Cabinda. L'Angola occupe illégalement ces territoires. Depuis des décennies, nous tentons de parler avec les Angolais. Nous avons lancé 4 propositions nous-mêmes. Il est bien spécifié dans cette expression de cesser le feu. Toute violation des territoires d'où nous occupons peuvent être objet de légitime défense.
Et les responsables du bureau politique du MPLA réagissent et estiment que ce cessez-le-feu n'a pas de sens puisque, je cite, il n'y a pas de conflit armé dans le Cabinda. Fin de citation. C'est la première visite d'un officiel civil nigérian de haut rang depuis le putsch de 2023. Le ministre des Affaires étrangères, Youssouf Maitama Tougar, est en visite à Niamey. Le chef de la diplomatie du Nigeria a été reçu par le premier ministre Ali Mahaman Laminzen. Il devrait rencontrer le président Tiani pour lui remettre un message de son homologue nigérian, Bola Tinubu. La relation entre les deux hommes reste compliquée depuis le putsch de 2023 qui a porté la junte du CNSP au pouvoir. La visite du chef de la diplomatie du Nigeria vise à baisser la tension entre les deux pays. Sidi Yansané.
Si Youssouf Maitama Tougar est venu passer un message spécial du président Tinubu au général Tiani, des sources diplomatiques confient à RFI que le ministre des Affaires étrangères doit également discuter de l'avenir de la force multinationale mixte créée pour lutter contre le djihadisme dans le bassin du lac Tchad et que le Niger a quitté le mois dernier. Une question d'autant plus urgente que Niamey peine à sécuriser ses propres pipelines, régulièrement attaqués par des groupes armés. L'économie doit aussi s'inviter dans les discussions. Malgré la réouverture des frontières, les activités commerciales sont restreintes sur le corridor reliant les États du nord du Nigeria aux régions de Maradi et de Zinder côté Niger. Niamey reste méfiant envers Abuja, qui s'était montré très volontaire pour une intervention militaire au Niger après le putsch il y a bientôt 2 ans, mais le pays sahélien, qui fait souvent face à des pénuries de carburant, dépend largement de ce que lui procure son voisin en hydrocarbures mais aussi en énergie. D'après le média nigérian Channels TV, le géant ouest-africain a réduit presque de moitié l'électricité qu'il fournit habituellement au Niger.
En Guinée, des remous à l'ouverture du procès en appel de l'opposant Aliouba, le président du mouvement démocratique libéral. Le public s'est vu interdire l'accès au tribunal des sympathisants de l'opposant, des journalistes mais aussi des diplomates sont restés bloqués à l'extérieur du bâtiment dans lequel plusieurs jeunes avaient fait irruption. Maître Hadi Kalissa Diallo, l'un des avocats de la défense, dénonce une entrave à la justice.
Il s'est passé ce matin un acte hautement déloyal de la part de qui, on ne sait pas. Mais on ne dirait pas la complicité du parquet, mais dans son indifférence. Ils ont bouclé tout le périmètre de la cour d'appel. Ils ont estimé qu'aujourd'hui, ils vont filtrer les entrées. Et donc, malgré ça, ils ont fait entrer des jeunes dès 7h du matin. Certains de nos confrères étaient déjà là, ils l'ont constaté. Moi, à mon arrivée, je prenais un café, quelqu'un m'a dit, ils ont fait entrer des jeunes. J'ai dit, mais de quels jeunes parlez-vous ? Je suis allé, j'ai effectivement constaté qu'il y a des jeunes qui ont rempli la salle. L'objectif, c'était quoi? C'est de dire que désormais, la salle est remplie, que plus personne ne pourra entrer. Donc, c'est une façon d'exclure de ce débat public les médias, et les militants et sympathisants de M. Ba, ainsi que les diplomates. Même les diplomates n'ont pas pu y accéder. Et donc, nous, face à cette situation, on a dit que c'est intenable. Parce que non seulement il y a des questions de sécurité qui se posent, nous ne pouvons pas plaider devant des inconnus et qui n'ont aucun intérêt à participer à ce procès. Mais nous ne pouvons pas maîtriser le fait que ces jeunes-là peut-être sont venus pour créer des troubles, pour provoquer des gens. Pourquoi tout ce tralala? Pourquoi tout ce cirque? Pourquoi tous ces incidents? Alors qu'il suffit simplement d'aller dire le droit.
Des propos recueillis par Mouktar Ba. Direction à présent la Côte d'Ivoire, où le PDCI a organisé une convention pour désigner son candidat à la présidentielle du 25 octobre. Un seul candidat en lice, Tidjane Thiam, actuellement en Europe. Il fait face à une poursuite judiciaire. Elle remet en question sa légitimité à la tête du parti, voire même son statut civil en vue de la présidentielle. Binta Diagne.
Globalement, le vote s'est déroulé dans le calme. Aucun incident majeur n'a été signalé. En tout, un peu moins de 6000 militants étaient appelés à voter aujourd'hui. Il s'agit des secrétaires généraux de section, des vice-présidents et des membres du bureau politique du PDCI. Pour eux, ce vote est une simple formalité. Chaque électeur se voit proposer un bulletin de vote unique avec la photo du leader du parti, Tidjane Thiam. Je suis venu plébisciter le président Tidjane Thiam à travers ce vote. Je veux matérialiser le choix de mon candidat, souligne Jean-Claude Niagne Agnero, membre du bureau politique. Le seul enjeu, c'est l'abstention, estime le député Augustin Diaoufoué. Certains militants peuvent se dire que cela ne vaut pas la peine d'effectuer le déplacement, explique ce responsable du comité central, qui dit avoir mis l'accent sur la sensibilisation. Le taux de participation doit démontrer que nous soutenons notre candidat, affirme Jacqueline Copliboni, la superviseure du centre de vote de Yopougon. Après la publication des résultats définitifs, le PDCI devrait organiser prochainement une fête d'investiture de son candidat. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Et ce drame à présent qui touche le football gabonais, on a appris ce matin la mort de l'international Aaron Boupenza à l'âge de 28 ans. En Chine, où il évoluait, repose en paix. Mon frère, je n'ai pas les mots, a dit son compatriote, l'icône Pierre-Emerick Aubameyang. Victor Missistrano, la Fédération gabonaise de foot, a confirmé une information révélée par plusieurs médias dans la matinée.
Aaron Boupenza vient de nous quitter à la suite d'une chute du 11e étage de son immeuble en Chine où il résidait, annonce la Fegafoot dans un communiqué. Les causes du drame restent encore floues. Le président élu du Gabon a fait part de son immense tristesse. Sur le réseau social X, Brice Oligui Nguema a évoqué un avant-centre de talent qui a fait honneur au football gabonais. Aaron Boupenza, c'est plus de 30 sélections avec les Panthères et notamment cette aventure jusqu'en 8e de finale à la CAN au Cameroun en 2022. Né à Moanda en 1996, l'attaquant avait été formé au CF Mounana avant de poursuivre son cursus aux Girondins de Bordeaux. Après plusieurs prêts en France, il avait beaucoup voyagé au cours de sa carrière. Entre son arrivée à Bordeaux et sa signature en Chine, le Gabonais avait évolué au Portugal, en Turquie, au Qatar, en Arabie Saoudite et aux États-Unis. Après un bon début de saison en Roumanie, Aaron Boupenza s'était donc engagé en janvier avec le club chinois de Zhejiang à l'est du pays. C'est là que sa trajectoire vient de se stopper brutalement, laissant le monde du football sous le choc.
Victor Missistrano, vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 18h43 en temps universel. Direction Abidjan qui vibre au rythme du 17e Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, événement qui a pour ambition de partager la musique en éveillant les consciences cette année. Le thème retenu, c'est le civisme et la sécurité routière. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, notre envoyé spécial Guillaume Thibault a croisé la route de Lil Jay, un chanteur ivoirien qui sera sur la grande scène vendredi.
L'homme est aussi grand que son sourire et si bienveillant que la causerie pourrait se prolonger toute la nuit. Lil Jay, Conan Angelo Wilfried à l'état civil, transpire l'intégrité.
On a des choses toujours à apprendre, faut être passionné, faut aimer ce que tu fais.
Dans un pays où le rap est roi, Lil Jay a été inspiré par les musiques du passé et par les virées dans la voiture de son père.
Et monsieur Conan Kwasi René, dans sa voiture, il mettait beaucoup de piano. Et moi, quand j'ai commencé à écouter la musique, j'écoutais pas la musique de mon époque. J'écoutais du Salif Keïta, bizarrement. Youssou N'Dour, Alpha Blondy, Tikenja. Je pense que ça a aussi impacté aussi ma manière de voir la musique.
Conan, tu vas manquer amour.
Natif de la populaire ville de Bingerville, Lil Jay tient au respect, à l'éducation des plus jeunes, en leur rappelant qu'en travaillant dur, réaliser ses rêves devient possible.
on a eu un peu d'argent et on sort un peu de vacances. C'est les épices de la vie. On a travaillé toute l'année, on sort de vacances en fin d'année, c'est les épices. Sans ça, c'est pas doux, tu vois. Et les rêves se réalisent lorsqu'on commence à travailler.
C'est pas tout. Vendredi, on donne plus conseil, mon ami, attends lundi. On a beaucoup travaillé, maintenant c'est passé.
Guillaume Thibault, Abidjan, RFI.
Et c'est le moment d'un frixeur de vous retrouver, Pierre Vallée, pour notre rendez-vous musique. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Et vous nous parlez ce soir du groupe Cocoroco.
Oui, un groupe anglo-nigérian que l'on rangera dans la catégorie jazz, même si sa musique est à l'image de Londres où vivent les musiciens, très cosmopolite, nourri de multiples influences, Caraïbes, Asie, Amérique. Un groupe qui met en avant les cuivres, ce qui se comprend assez facilement de la part de musiciens d'origine nigériane et qui donc ont inévitablement été biberonné à l'afrobeat de Fela.
Un groupe de jeunes donc qui a émergé pourtant il y a quelques années.
Oui, il s'est fait remarquer un peu après la crise du Covid avec un excellent morceau, Abusé Junction, que je vous conseille vivement d'aller écouter sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis ils ont sorti ensuite une série de singles et un album, un seul album j'ai envie de dire, mais ça leur ressemble assez, un groupe qui prend son temps avant de sortir un disque plutôt que d'envoyer une rafale de disques.
Et donc ce groupe Cocoroco vient de sortir un nouveau disque.
Oui, un simple qui s'appelle Sweetie, sur lequel on retrouve les ingrédients qui font son succès. Un groove chaloupé, des cuivres puissants et de jolies voix féminines. Un morceau qui annonce la sortie d'un deuxième album qui est annoncé pour le mois de juillet. Et soyez assurés que je ne manquerai pas de vous parler de ce disque. J'en profiterai aussi pour vous parler un peu plus, vous en raconter un petit peu plus sur ce groupe qui mérite vraiment qu'on s'intéresse à lui.
RFI Soir.
Sylvie Berruet pour Afrique Soir. Restez à l'écoute de la Radio du Monde. On l'évoquait dans le journal il y a quelques instants. Il y a du football au programme aujourd'hui. La fin des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. L'Inter Milan contre le Bayern Munich et surtout le Real Madrid contre Arsenal. Une affiche de rêve. Le Real a 3 buts de retard. Ça commence dans maintenant une dizaine de minutes. Et c'est à suivre évidemment en intégralité sur RFI.
Demain sur RFI, de vive voix, Pascal Paradon.
Si l'on dit Verdi, vous pensez musique et Italie. C'est oublier que l'un de ses principaux opéras, Don Carlos, a été créé à Paris en français. à l'époque, au 19e siècle, le français et Paris ont une influence considérable dans la vie culturelle européenne.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI. Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
allergie, une part croissante de la population mondiale est concernée.
Vendredi,
question de femmes, question de parents, le paludisme chez les enfants.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.